de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Hegel écrivait que l'aliénation de l'État arrive par le langage, arrive dans le langage. C'est un peu le point de départ de cette conférence donnée par Jean-Pierre Fay et le poète Jacques Roubaud en mars 1974. Des troubadours du Moyen-Âge jusqu'au langage dans la publicité, en passant par l'analyse du langage chez Nietzsche ou les improvisations tactiques de Mussolini, une conférence diffusée le 14 mai 1974 sur France Culture dans l'émission Dialogue.
Langage, puissance N et totalitarisme. Nos invités, Jean-Pierre Fay et Jacques Roubaud, qui sont tous les deux cofondateurs du collectif Change et du Centre d'analyse et de sociologie des langages. Jacques Roubaud est professeur de mathématiques à l'Université de Paris-10-Nanterre. Il a publié, je le rappelle, Epsilon chez Gallimard, Mono no Avare, également chez Gallimard, Renga en collectif, et 31 au cube récemment, toujours chez Gallimard. Quant à Jean-Pierre Fay, il a publié entre autres une théorie du récit chez Hermann en 1972, Langage totalitaire, chez le même éditeur, Lutte de classe à Dunkerque, les morts, les mots, les appareils d'État, et Migration du récit sur le peuple juif, les deux ouvrages aux éditions Galilée. Jean-Pierre Fay, de quoi est-il question ici ce soir?
Donc, pouvoir du langage ou puissance du langage, ou encore les puissances du langage, ou même peut-être... L'élévation de puissance, c'est-à-dire certes d'auto-multiplication ou d'exponentiation du langage par lui-même. Il est certain que l'objectif, c'est le rapport entre ça qui a pouvoir de parler, qui a pouvoir de l'engager, et puis le pouvoir lui-même, c'est-à-dire le pouvoir dans la société et en particulier le pouvoir d'État. La Staatsmacht, comme l'appelait le bonhomme dont Lénine faisait la relecture dans les bibliothèques suisses au cours de la Première Guerre mondiale, le bonhomme Hegel, ce bonhomme qui avait écrit que l'aliénation dans le pouvoir d'État arrive dans le langage. Alors c'est ce procès qui nous concerne ce soir. Je crois que nous allons essayer de faire une sorte de détour, de... passage par un chemin de traverse. Ce chemin de traverse, il m'est venu à l'esprit en pensant au titre du livre de Jacques Roubaud qui s'intitule « 31 au cube ». Apparemment, on est très très loin de la question Hegel, on est très loin du pouvoir d'État, on est dans le langage poétique, on est dans la quête d'une prosodie. Là, moi je voudrais alors demander à Jacques Roubaud ce que signifie ce titre d'abord dans le livre. Question, mais surtout, qu'est-ce que c'est que la fonction prosodique? Qu'est-ce que c'est que le pouvoir prosodique du langage? Parce que c'est un domaine qu'il explore et autour duquel nous essayons par moments de faire une jonction assez problématique, dont les objectifs derniers sont finalement quand même l'objet du bonhomme Hegel et du bonhomme Lénine, c'est-à-dire le pouvoir même.
Jacques Roubaud?
Bien entendu, c'est un parallélisme qui peut sembler étrange. entre ce qui se passe dans l'aspect lourd de l'histoire et dans l'aspect tout à fait léger de la parole poétique. Donc je vais proposer quelques schémas d'explication à titre seulement de constatation, et puis on va voir si on peut ensuite par un autre biais relier tout ça ensemble. L'aspect qui m'a intéressé ici, c'est le processus de destruction de la prosodie traditionnelle française, qui est un processus qui accompagne dans le temps d'autres événements qui ne sont pas du tout prosodiques. Et c'est un processus qui, bien entendu, commence assez tôt, mais apparaît de manière très claire vers le milieu du XIXe siècle. Je vais le prendre sur l'exemple le plus bateau, c'est-à-dire sur l'Alexandrin. Si on regarde le fonctionnement de ce vers qui domine la prosodie française entre 1500 et quelques et le milieu du XIXe siècle, on s'aperçoit qu'il y a une espèce d'accélération, un début de destruction visible de la manière dont fonctionne ce vers, et qui apparaît peut-être le plus clairement autour des années 1860. Il y a des choses que certains poètes se permettent vers 1860 qui font que ce qu'ils écrivent n'aurait pas pu être considéré comme de la poésie acceptable par les gens écrivant dans la génération précédente. Et disons presque le premier, c'est Mallarmé. Mallarmé dans le deuxième vers de l'Azur, qui paraît dans le Parnasse contemporain en 1866, dit « accable, belle, indolemment comme les fleurs », et c'est un vers qui se coupe au milieu d'un mot, une chose qui est vraiment tout à fait exorbitante pour un poète ayant dans l'oreille la quasi-totalité des vers alors écrits de Hugo, aussi bien que Baudelaire, aussi bien que Racine. Le moment fondamental de ce qui se passe dans cette prosodie, on peut le saisir très clairement chez Rimbaud. Parce que, bon, d'abord chez Rimbaud, ça va très vite. Et puis, parce que se pose là à peu près une bonne partie des problèmes fondamentaux que présente cette destruction de la métrique. Et la manière de le résoudre ou ne pas le résoudre est une sorte d'anticipation sur ce qui va se passer ensuite. Les poèmes que Rimbaud écrit pendant toute la période qui couvre finalement la guerre de 70 et la Commune sont des alexandrins qui ne présentent pas d'innovation particulièrement forte. Et ceci va, disons, jusqu'à la constatation qu'il fait en 71 de l'échec de son espérance révolutionnaire propre. Il y a un texte qui est le constat de la défaite, c'est Paris et ce repeuple. Mais ça, c'est un texte écrit dans une prosodie assez
hugolienne.
Très hugolienne et assez
hyper hugolienne.
Oui, presque hyper hugolienne. Et puis, en 1872, il écrit quelques poèmes, peu nombreux, qui sont les derniers qui se présentent sous l'aspect de poèmes satisfaisant la prosodie habituelle. Et le premier de ces poèmes, qui est un poème extrêmement violent, une sorte de constatation violente de l'échec du mouvement révolutionnaire de la Commune. Je vais en lire quelques vers. C'est un poème qui se compose de 6 strophes, qui sont en principe des alexandrins, qui commencent comme ça. « Qu'est-ce que pour nous, mon cœur, que les nappes de sang et de braise et mille meurtres et les longs cris de rage, sanglots de tout enfer renversant tout ordre et l'aquilon encore sur les débris et toute vengeance, rien. Mais si, tout encore, nous la voulons, industriel, prince, sénat, périssé, puissance, justice, histoire, abat, ça nous est dû, le sang, la flamme d'or. » Bon, il y a comme ça 6 strophes qui se terminent par un vers beaucoup plus court qui est « Ce n'est rien, j'y suis toujours. » Bon, ce que le poème dit, c'est très clair. Il en appelle à la défaite du mouvement révolutionnaire de la manière la plus violente et en même temps désespérée. Et donc, il appelle à la destruction de cette société et il constate à la fin « Ce n'est rien, j'y suis toujours. » Bon, et ça, ce que ça va déterminer dans son évolution personnelle, après, bon, c'est assez clair et connu. Mais ce qui est remarquable, c'est que pratiquement ce poème est le premier qui n'est absolument pas un poème en alexandrin. Alors évidemment, cette affirmation est difficile à saisir dans la mesure où le processus actuel de destruction de l'Alexandrin étant suffisamment avancé, c'est peut-être pas extrêmement visible en quoi ces vers, tout en ayant exactement 12 syllabes et en étant rimés, ne sont plus du tout des Alexandrins. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une espèce de concentration des violations de règles portant sur la structure même de l'Alexandrin, sur sa construction en deux morceaux. Et à peu près dans chacun des vers de ce poème, il y a quelque chose qui boite. Et ça, je crois que c'est très conscient chez Rimbaud. Et que la conclusion du poème veut dire à la fois deux choses. Elle veut dire que dans sa violence contre la société qui s'est rétablie, hein, société, tout est rétabli, c'est la fin de Paris se repeuple, après le moment de la Commune, ben, il ne peut pas y échapper par l'imprécation, puisqu'il y est, il y est toujours. Et en même temps, cette violence concomitante qu'il porte contre l'Alexandrin, en l'attaquant d'une manière que n'a fait aucun poète avant lui, en portant cette attaque sur la règle de la prosodie, en même temps, eh bien, il est dans la même situation qu'il est vis-à-vis de la Révolution et de son échec dans la société. Il est dans la société qui vient, où cette Révolution vient d'échouer, et il détruit l'Alexandrin et il y est encore. Mais ce n'est rien, j'y suis toujours. Et les deux choses vont en même temps. Bon, alors, ce que fait Rimbaud après, c'est très clair. Bon, il n'écrit plus de poèmes, pratiquement. Il commence d'abord par pousser à l'extrême ce qu'il vient de faire sur la destruction de ce langage prosodique qui, pour lui, porte la marque de la société contre laquelle il s'élève. Et il continue un peu dans cette voie, mais pas très longtemps, d'une part par le poème en prose, des Illuminations, par également dans les Illuminations, les deux poèmes qui sont ce qu'on peut appeler des poèmes en vers libres et qui portent également la marque de ce que sera cette prosodie.
Qui sont les deux premiers de la langue française?
Oui, c'est pratiquement les deux premiers. Et après ça, bon, il s'arrête. Et alors, je crois que tout ce qui se passe vis-à-vis de ça dans le langage poétique prosodique, après Rimbaud, est un peu dans la situation qui se voit dans ce poème. C'est-à-dire, de la même manière qu'il porte sur la société la condamnation qui est la sienne après ce qui s'est passé dans la Commune, il porte sur la prosodie, comme est étroitement liée à l'organisation de la société, il porte la même condamnation et il y introduit son schéma de destruction. Mais en même temps, il ne peut pas en sortir, sauf dans le silence. Bon, alors chez Rimbaud, ça se fait très vite, ça se fait en 2-3 ans, mais il est clair que là, massivement dans la prosodie française, le même processus peut se lire et qui prend beaucoup plus de temps. Bon, il est clair que les gens sont moins rapidement conscients du fait que l'Alexandrin a été détruit, c'est-à-dire qu'ils continuent à en écrire, souvent extrêmement intéressant. Seulement, bien entendu, à partir du moment où ce type d'effondrement prosodique a eu lieu, il est pratiquement plus possible de le refaire de la même manière.
Jean-Pierre Faye.
Oui. En somme, la structure profonde que constitue le modèle sous-jacent de l'Alexandrin, ici, est soumis à des règles de transformation différentes. C'est-à-dire qu'il y a des changements de règles qui font qu'on obtient la surface du vers phonique par d'autres règles de jeu que dans le bon vieux Alexandrin hegelien.
Oui. C'est-à-dire que la prosodie traditionnelle tient sur le nombre et la rime, mais quand ça a disparu, quand on tire la prosodie, c'est tout le reste qui vient, tout le reste du discours que porte cette prosodie vient. Et par conséquent, on le retrouve exactement dans le vers libre, et ça, toute l'histoire du vers libre le montre, c'est qu'il y a même une sorte de renforcement de la rhétorique traditionnelle dans le vers libre par rapport à ce qu'elle est à la fin de l'Alexandrin, tout évidemment chez Mallarmé. Et puis, quand le vers libre lui-même tend à se décomposer, alors ça se réfugie avec une force violente dans la prose.
Oui, c'est ça. Alors, c'est là qu'on retrouve l'autre puissance du langage, la puissance narrative. Parce que finalement, la prose, c'est ça qu'elle est chargée de porter depuis, disons, l'apparition du roman en prose ou de l'histoire en prose, donc depuis Villehardouin et Lancelot, enfin au début du XIIIe siècle. Et à partir de cette date, pour des raisons qui sont assez mystérieuses au fond, l'alliance visible de la puissance prosodique et de la puissance narrative qui sont dans la chanson de geste ou dans le roman en vers ou dans l'épopée homérique, enfin, ou dans toute épopée primitive, est brisée, et d'un côté par le vers comme fonction lyrique, qui est prosodie apparemment pure, et puis la narration se fait en prose, elle se déshabille de son oripeau prosodique. Mais alors, notre question, je crois, c'est de savoir, au fond, qu'est-ce qui se passe dans la prose narrative et qui est peut-être comparable à ce procès profond, ce procès sous-jacent, qu'est la prosodie pour le vers, et qui joue, par exemple, dans la prose narrative première de la langue française, le roman du Lancelot, le roman du Graal. Parce que là, on est dans la fonction narrative à l'état naissant, et ça va nous peut-être nous rapprocher d'une certaine écoute de cette narration diffuse dans laquelle nous baignons et qui a pour autre nom l'idéologie. C'est-à-dire qu'à chaque instant, la société se narre elle-même, se raconte ce qu'elle fait ou ce qu'elle est censée faire. J'ai l'impression que moi, que l'histoire allemande de l'entre-deux-guerres, l'histoire de la République de Weimar et de sa chute, qui est le phénomène inverse de ce qu'est la chute de la Commune, eh bien, la prosodie de ce qui est raconté par l'idéologie et ses différents discours sous Weimar, c'est une espèce de Graal moderne, enfin de récit de la chevalerie idéologique allemande. C'est donc par le détour, alors le deuxième détour, qu'on va essayer peut-être de capter l'autre puissance de la langue.
Il est clair que dans ce qui sera emprunté par le récit, disons, de l'extrême droite allemande à la fin du 19e, et ensuite qui aura la faveur qu'on sait à la fin de la République de Weimar, il y a une sorte de modèle de discours qui est visiblement emprunté à des formes réinterprétées du roman médiéval. Le discours de la chevalerie dans les romans du Graal est un discours extrêmement naïf et très franc du point de vue de l'idéologie, c'est-à-dire que il y a les chevaliers qui occupent le pouvoir, ils doivent avoir le pouvoir parce que, comme dit clairement la dame du lac à Lancelot au moment où il s'en va à la cour du roi Arthur, que le chevalier doit être sur le peuple comme il est sur son cheval, le peuple doit le soutenir, le nourrir et le porter.
C'est assez cru.
Oui, c'est assez cru. Il y a un discours, le discours idéologique est parfaitement tranquille et visible. Seulement, ça, en même temps, c'est pas suffisant parce que la distinction sociale entre la classe qui a le pouvoir, la classe chevaleresque, et puis les autres dont on ne parle pas, celle-là, elle est très claire, elle a des formes extérieures. Elle a des formes extérieures de puissance, que sont à la fois les armes, puis les beaux habits, etc. C'est à la fois très fort et un peu grossier. Alors, il y a une sorte de deuxième discours, et ça, il me semble que c'est une partie de la fascination qu'exerce ce modèle médiéval sur les gens de droite à la fin du XIXe siècle, c'est qu'à l'intérieur de la chevalerie, qui a effectivement le pouvoir, c'est comme ça, il y a une sorte de société secrète, qui est la deuxième chevalerie, cette chevalerie qui a une origine mystérieuse, tournant autour du Graal, la chevalerie céleste, et que d'ailleurs Wolfram von Eschenbach dans Parsifal, puis c'est ça qui sera le modèle de Wagner, nous l'a décrit très bien. Et alors là, les signes qui font qu'on se reconnaît, qu'on est élu et qu'on appartient à cette chevalerie ne sont pas des signes aussi grossiers que le seul fait d'avoir effectivement la lance et d'avoir le pouvoir. Il y a donc à l'intérieur de la classe chevaleresque, il y a une autre classe secrète qui est celle des chevaliers du Graal.
Qui est donc à une puissance supérieure.
Et alors là, surtout, c'est que cette origine-là, elle n'est pas grossière et d'autre part, elle est invérifiable. On dit qu'elle est, mais on ne peut pas dire d'où elle vient pour des raisons qui sont économiques ou historiques ou n'importe quoi.
C'est le récit qui dit, c'est ça.
Le récit dit que ces gens-là sont les gens qui appartiennent à cette classe élue.
Oui, à cette puissance seconde de la chevalerie. Ouais. C'est l'inverse de la révolution dans la révolution de Régis Debray. C'est la chevalerie dans la chevalerie.
Exactement.
Je vous rappelle le titre de ce dialogue qui réunit ce soir Jean-Pierre Fay et Jacques Roubaud, Langage, puissance N et totalitarisme. Jean-Pierre Fay.
Ce qui est frappant à première visibilité, c'est d'abord que le Graal, bon, il est retransmis après Wolfram par un certain Richard Wagner. Et là, il y a tout à coup une espèce d'élévation de puissance, alors du discours wagnérien, qui, après avoir été un discours révolutionnaire autour de 1849, du temps où il rencontrait Bakounine à Dresde, etc., en Saxe, devient au contraire un discours hyper gobinien. Et à ce moment-là, le sang pur véhiculé par le Graal devient le sang de la race. Et ça devient extrêmement clair dans les commentaires que se donne à lui-même Wagner dans ses derniers textes, et surtout que surajoute le wagnérien dans le wagnérisme qui était le sinistre Houston Stuart Chamberlain, son lugubre gendre, l'époux de Eva. La correspondance de Chamberlain avec la douce Cosima Wagner est une des choses les plus consternantes qu'on puisse lire, parce que d'abord il parle entre eux de Nietzsche comme d'un misérable pantin ou d'un pauvre fou, et eux, les gens sérieux, s'exaltent sur justement la découverte du sang allemand qui a été faite par le grand Richard, jusqu'au moment où Chamberlain appelle Cosima Liebermutti. Et là, on sait qu'il a en plus épousé le Graal lui-même. Bon, ça, c'est la petite histoire allemande. Mais alors, dans les années 20, à la veille de la prise du pouvoir par les nazis, il y a un livre que j'avais trouvé comme ça, un peu dans les hasards des bibliothèques, à Fribourg-en-Brisgau, dans la ville de Martin Heidegger. C'est un certain Otto X, dont le livre avait pour titre « Croisade en vue du Graal »,« Kreuzzug gegen den Graal », d'ailleurs, « Croisade contre le Graal ». Et contre, au sens de, à la recherche d'eux. Et alors, ce livre assez étrange, cataro-eschenbachien, n'est-ce pas, m'avait amené à découvrir la vie de cet homme. C'est un homme qui entre dans la SS, tout à coup, à une date qui n'est pas très facile à déterminer. Et puis, comme il appartient à une minorité sexuelle bien vue dans la SA, mais mal considérée dans la SS, à partir de juin 34, il est un beau jour condamné à mort, de façon assez mystérieuse, mais comme on ne condamne pas à mort un SS qui en plus est porteur du Graal, on le condamne au suicide. Et cet homme étrange choisit comme suicide la forme suivante, qui est acceptée par les autorités. Il choisit de se suicider au rhum ou au cognac en se jetant dans le fond d'une crevasse glaciaire. Alors il est solennellement amené sur les lieux et il disparaît avec sa dose de boisson portée par les vases et vases alcooliques. Alors on a là une espèce de traduction un peu bouffonne et assez lugubre en même temps du récit du Graal. Mais ça, c'est le folklore en quelque sorte. Mais il y a quelque chose qui est plus, enfin qui me paraît plus sérieux là-dessous, me semble-t-il, dans ce que tu dis du récit médiéval. Alors il me semble qu'il y a là aussi deux niveaux. Il y a le récit lui-même avec sa conjoncture, ses conjonctures, donc ses événements récités, et qui est en quelque sorte la structure de surface, enfin, ou la nappe de surface, ou le texte même du récit. Et puis il y a en dessous quelque chose que tu appelles par moments aussi la structure profonde, et que tu décris à travers des verbes médiévaux, comme le verbe entrebescar, par exemple. C'est l'entrelacement, ce sont des structures profondes qui sont de type entrelacé, et non pas de type enchaîné, comme les structures décrites par Noam Chomsky, qui sont des structures de concaténation. Alors, moi, ça m'a frappé, cette sorte de procès d'entrebescar qui court de façon sous-jacente, sous l'apparence de foisonnement diffus, de profusion incohérente que donne le récit médiéval. Parce que l'histoire des deux chevaleries, dont on parlait tout à l'heure, la chevalerie, comment dire, solide et la chevalerie seconde, la chevalerie sociale et la chevalerie de la deuxième puissance. Finalement, c'est quelque chose qui se refait sous nos yeux dans l'idéologie de Weimar. L'idéologie, enfin, dans le procès idéologique et politique de l'Allemagne de Weimar, qu'est-ce qui se passe? Il y a la vieille Allemagne qui est là, avec la vieille Prusse, les Hobereaux, les Junker, qui se rassemblent, qui ont perdu le pouvoir avec la révolution spartakiste et même la stabilisation social-démocrate ou démocratico-libérale, centriste, avec un glissement à droite progressif, mais intérieur à la République parlementaire. Puis, donc, dans cette société, il y a la vieille chevalerie teutonique, est toujours là, réfugiée dans quelques bastions de l'idéologie, comme le Club des Messieurs ou le Club des Seigneurs, le Herrenklub et quelques autres lieux. Il y a le Deutsche Club, et tout ça avec comme arrière-fond le Deutsche Orden, c'est pas l'ordre teutonique, qui est une espèce d'hyper-chevalerie. Non, qui est une espèce de... Enfin, laissons. C'est donc ça, c'est la société réelle. Hein, c'est la société, c'est la haute société allemande effective. Elle a perdu le pouvoir tout en l'ayant toujours, car par toutes sortes de systèmes de mariage comparables aux généalogies des rois pêcheurs, elle contrôle en même temps à divers degrés la grande industrie de la roure. Elle n'est pas à la rue, cette chevalerie. Mais elle n'a pas le pouvoir politique. Le problème pour elle est de retrouver le pouvoir politique. À ce moment-là apparaît un tout autre discours qui raconte, partant justement du Graal wagnérien et chamberlainien et gobinien, que ce qui compte c'est le sang. Enfin, c'est ce Graal du sang de la race qu'on va apporter dans un vaisseau narratif à travers un certain nombre de bouquins plus ou moins burlesques, premier degré, mais qui peu à peu circulent de plus en plus dans le tissu. Et tout à coup, on assiste à une opération assez étrange, c'est que la chevalerie socialement instituée, établie, ayant ses lettres de noblesse dans le Gotha, née de père et de mère, garantie du point de vue des critères de la vieille Allemagne, tout à coup, elle adopte une sorte de chevalerie seconde qui est faite des petits bourgeois bavarois. C'est pas la grande chevalerie prussienne adopte les petits bourgeois bavarois ou austro-bavarois, les douaniers de Braunau, les apothicaires de Landshut, là, les Strasser, etc., le bon Himmler qui élevait des lapins. Et toute cette petite mafia, tout à coup, se trouve investie d'une sorte de promotion extraordinaire qui la place au-dessus de la chevalerie effective. Et ça devient donc, là j'ai l'air de plaisanter en appelant les nazis des chevaliers, mais ce n'est pas une blague, c'est comme ça qu'ils se voient et qu'ils finissent par se nommer. Car ils construisent les Ordensburg, n'est-ce pas, les bourgs de l'ordre. Vraiment, Hitler, Himmler et Rosenberg ont pris au sérieux l'idée de reconstituer un ordre méta-teutonique ou hyper-teutonique, par-dessus la chevalerie du Gotha. Mais en fait, comment ce processus est-il possible? Il faut qu'il y ait là une espèce d'investiture qui ne peut se faire que par des détours assez bizarres. La première investiture, elle est donnée par ceux qui la détiennent, c'est-à-dire c'est la société conservatrice. Les conservateurs allemands peuvent nommer conservateurs ceux qui leur plaît de nommer ainsi. Donc ils peuvent dire les nazis, ce sont aussi des défenseurs du conservatismus. Mais ça ne suffit pas pour qu'ils prennent le pouvoir et qu'ils redonnent le pouvoir à la chevalerie réelle en devenant la chevalerie seconde. Il faut qu'ils aient une deuxième investiture. Alors c'est là qu'il y a un détour très curieux. Il faut que ça leur vienne par l'autre côté, par le côté de l'ennemi. L'ennemi absolu, c'est-à-dire la révolution, à la fois la révolution française et la révolution russe, qui est l'ennemi vraiment radical. Et alors c'est là qu'il faut donc qu'un certain discours donne aussi l'investiture de ce que, là je pensais à un texte de Bataille dans Acéphale, lorsqu'il essayait de comprendre la naissance du fascisme. Il nous disait, la seule autorité imposante, c'est celle du changement catastrophique dans le monde moderne. C'est donc l'autorité que donne la révolution. Bon, il faut donc avoir à la fois l'investiture du conservatisme et l'investiture du changement catastrophique de la révolution. Ça ne se donne d'ailleurs par aucune brutalité apparente, car les nazis font très attention à ne pas brusquer les choses et à ne pas renverser l'ordre établi, puisqu'ils ont besoin de cet ordre pour être investis. Il leur faut le discours de la révolution en plus, et pour ça, donc, tout un long détour dont se charge essentiellement Goebbels.
C'est-à-dire qu'il faut qu'il apparaisse, comme il apparaît dans le Graal, que la chevalerie terrestre, c'est-à-dire ici donc les classes conservatrices, ne peut être sauvée de sa catastrophe imminente, hein, puisque c'est l'autre discours, le discours révolutionnaire est en train de la mettre en danger, elle ne peut être sauvée que par l'intervention quasi mythique et mystique de la chevalerie céleste, dont ils joueront le rôle. Enfin, c'est ça.
Exactement. Alors, alors c'est là qu'il faut, que le langage ne dise pas n'importe quoi. Ou plutôt qu'il dise n'importe quoi, mais d'une certaine façon. À l'apparence, il dit n'importe quoi. Car effectivement, si on prend le livre-clé de Goebbels, parmi d'autres, ou ses discours, peu importe, mais disons le livre qui s'appelle « Combat pour Berlin », « Kampf um Berlin », où le petit Goebbels arrive en boitant à Berlin, dans une ville qui a 1000 militants, et en 33, pratiquement, il donne le pouvoir à son ami Adolf. Bon, eh bien, il dit tantôt, en effet, nous défendons la société contre la rue, contre les spartakistes, les émeutiers avec des rucksacks dans le dos, les déserteurs, etc. Et puis, à d'autres moments, il dit, c'est nous la rue, nous avons la rue, nous sommes la révolution par la rue. et nous allons abattre la bourgeoisie. Alors, évidemment, on ne peut pas dire ça dans la même phrase, parce que si on le dit dans la même phrase, c'est un peu gros, ça fait un produit nul. Il faut qu'il y ait une espèce de système d'entrelacement des propositions chez le même locuteur. Et ça, Goebbels le fait assez bien. Mais ça ne suffit pas non plus, parce que ça ne serait pas crédible si tout à coup il arrivait en disant ça. Les gens l'interromperaient et lui diraient « Mais enfin, vous foutez de nous, vous venez de dire que vous êtes pour la consolidation de la société établie, vous ne pouvez pas en même temps renverser la bourgeoisie, la noblesse et la société. » Non, il faut que tous les autres aient dit des choses comme ça dans un grand champ. Il y a donc un entrebescard qui fonctionne de façon plurielle sur une espèce de grande partition qui est jouée par toute l'idéologie. Ce qui fait qu'il y a une espèce d'énorme nappe narrative ou une espèce de vaste roman hyper chevaleresque, enfin, et burlesque à la fois, qui dit tout à la fois, nous sommes les conservateurs, nous sommes les révolutionnaires, les uns disent plus l'un, les autres disent plus l'autre, et les uns deviennent les temps forts de l'autre, et puis ensuite le temps faible du discours suivant. Et finalement, un beau jour,
C'est que ce Graal qu'ils offrent, c'est la manière pour eux d'être à la fois conservateurs et révolutionnaires, c'est-à-dire que c'est le concept de race. En fait.
C'est ça. Alors le concept de race permet de dire les deux choses à la fois. Et là, il y a un retournement qui, justement, fonctionne, curieusement, dans certains textes, comme une prosodie. Mais alors finalement, un beau jour, il y a Hitler qui, ayant déjà le pouvoir bien en main, peut se permettre de dire, crûment, je suis le révolutionnaire le plus conservateur du monde. Ich bin der conservativste révolutionnaire der Welt. Ça, c'est seulement en juin 1936 qu'il peut courir ce risque. Et encore, il le dit que quelques chefs de la jeunesse qui tient solidement dans sa poigne. Mais voilà, une curieuse histoire, car tout ça commence par des énoncés jetés par Thomas Mann vers 1921 sous une forme assez ironique et problématique à propos de Nietzsche. Et puis Thomas Mann cesse tout à fait de parler ce discours et même le dénonce avec virulence dans les années suivantes, de plus en plus. Mais ce discours est capté par un petit noyau, mais il n'est jamais parlé officiellement. Il faut que ce soit dit d'une façon entredite. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais dire les deux choses à la fois de façon trop publique. Il y a une espèce de tissu donc, qui alterne les temps. Et c'est ainsi que le dire est mêlé à l'entredire ou à l'interdire. Vous savez que, enfin, entredire en provençal, hein, ça veut dire interdire, c'est l'interdiction. Et finalement, le thème même de la révolution conservatrice est interdit, effectivement, par Rosenberg et Goebbels après l'élimination des oppositions en 1934. Et alors, c'est là qu'on voit la fonction des coupes et des césures, il me semble. Tu vois. Le plus frappant, c'est l'apparition de la prosodie raciste au milieu de tout ça. Il y a un texte de Mein Kampf dans le chapitre 3 où il raconte... son adolescence à Vienne, après sa petite enfance à Braunau et à Linz, il raconte que à Vienne, là, les choses sont tout à coup devenues évidentes, et cela depuis la révolution de 1848, prétend-il. La révolution de 1848 a pu être partout une lutte de classe. En Autriche, c'était déjà une nouvelle lutte de race. Donc il y a eu un moment donné qui situe mythiquement 1848, alors qu'en fait ça se situe très près de lui, ça se situe plutôt autour de 1900, pour la fin des années 80, il y a eu un renversement de la lutte de classe en lutte de race. Et d'une façon qui est dite un peu comme une comptine. Die Revolution des Jahres, etc. könnte überall Klassenkampf sein, in Österreich war sie schon eines neuen Rassenstreit. Et derrière ce discours, il y a le vieux raciste fou que vraisemblablement lisait le jeune Hitler à Vienne en achetant sa revue au bureau de tabac là, d'une rue viennoise, Lanz von Liebenfels, qui dit « Sie wollen den Klassenkampf, sie sollen den Rassenkampf haben ». Là, il y a une espèce de retournement assonancé qui est très curieux.
Il faut le traduire. Ils ont voulu...
Ils ont voulu la lutte de classe, ils, les ennemis. Oui. Les marxistes, et ils auront le combat des races, la lutte des races, et ça jusqu'au couteau de la castration. Castrationsmesser. Bon, alors, là, évidemment, on a le bénéfice de l'assonance avec la lutte de classe, la Klassenkampf, et tout à coup, on l'a renversé, on a au contraire la chevalerie du couteau, mais la deuxième chevalerie. Mais encore a-t-il fallu entrelacer les énoncés.
Bon, il faut d'abord non seulement les entrelacer de façon à ce que ça puisse être accepté à la fois par des gens dont les motivations sont différentes, sont opposées même, puisqu'il s'agit de détourner une partie des masses populaires et des chômeurs du Klassenkampf pour le mettre dans l'autre. Et puis, il faut que, de toute façon, quand on dit ça, ça fasse écho. C'est donc qu'il y ait un récit, une grande quantité de récits antérieurs qui puissent s'emparer de ces quelques noyaux de discours pour leur donner de la force. C'est-à-dire l'interprétation qu'on donne habituellement, qui est simplement celle de la propagande, une propagande habile, c'est tout à fait
des drapeaux dans les rues, des affiches, etc., ça arrive à la dernière minute. Le viol des foules, enfin toutes ces histoires, c'est vraiment la dernière heure. C'est la campagne électorale. Mais avant, il faut qu'il y ait une plausibilité très longue.
Oui, il faut que tout ce discours soit dans l'oreille des gens.
Et même qu'il soit apporté de très loin. Alors ça, par exemple, Augustin Thierry le montre très bien. Montlosier, le vieil idéologue qui avait essayé de servir Napoléon et qui ensuite a servi les ultras sous la Restauration, avait déjà, au dire de Thierry, n'est-ce pas, par l'emploi d'une phraséologie qui substitue à l'idée de classe celle de peuples divers, appliqué à la lutte des classes ennemies et rivales, le vocabulaire pittoresque de l'histoire des invasions et des conquêtes. Alors c'est là déjà que ça commence avec tout le langage de la contre-révolution en France et aussi dans la Russie tsariste, et les deux nappes viennent se mêler et s'entre-croiser dans la langue allemande. Ça, je crois que c'est un de ces processus où on voit la formulation de la donation de pouvoir finir par former le pouvoir lui-même. Enfin, on assiste par des variations, des formulations, à avoir la formation même. Ça, c'est ça qui est assez singulier et qui me rappelle le passage de Marx nous disant « Attention, nous avons à considérer le procès du côté de la forme, c'est-à-dire du changement de forme qui médiatise ou rend possible le changement matériel de la société. » Parce que en prenant les langages apparemment fluides, non seulement on est dans le langage, non seulement c'est déjà le domaine le plus précieux, mais aussi en apparence le plus innocent de tous, comme disait Hölderlin, mais en plus, même dans ce domaine-là, on peut pressentir que le langage, c'est aussi le plus dangereux de tous les biens. C'est-à-dire que les puissances qui sont à l'œuvre dans la langue de Hölderlin sont aussi à l'œuvre dans ce discours diffus. Et la langue de Hölderlin nous en donne une sorte de figure où le procès est beaucoup plus fort, est élevé à une sorte de pureté plus visible. Mais notre postulat provisoire, c'est que ces explorations-là aussi nous mènent près de l'objet le plus virulent, celui que Bataille énoncé et désigné à l'époque du Collège de sociologie avec Klossowski lorsqu'il cherchait à voir comment le noyau sacré du pouvoir était lié à toute une constellation justement du dire et de l'entredit et de l'interdit.
Ici s'achève le dialogue proprement dit entre nos deux invités de ce soir, Jean-Pierre Fay et Jacques Roubaud, qui vont maintenant dialoguer, je pense, avec les nombreux invités du studio 105, et aussi nombreux que distingués. Une première question, elle sera posée par notre ami Gobard, qui lève la main.
Je voudrais demander à Monsieur Jean-Pierre Fay comment est-ce qu'il pourrait analyser aujourd'hui deux discours actuels, puisqu'il a pu porter tout son effort sur le discours totalitaire, Il y a deux autres totalités aujourd'hui qui se présentent devant nous. Premièrement, la totalité publicitaire. Est-ce qu'il y a là matière à analyse ou est-ce que c'est simplement quelque chose qu'on peut laisser de côté? Et deuxième type de discours, le discours linguistique sur la langue et en particulier le discours régionaliste, le discours du breton, de l'occitan.
Je ne sais pas si je suis compétent pour les discours occitaniens, parce que ce serait plutôt à Jacques Robaud d'en dire quelque chose. Mais la publicité, je crois qu'on peut se demander si elle n'est pas la fille de la propagande plutôt que sa mère. Ce qui fait qu'elle est là comme l'interrègne de la publicité seconde, c'est-à-dire la publicité du pouvoir. Et il est bien visible que dans beaucoup de cas, les deux choses se mêlent, car je ne sais pas comment est la publicité actuellement au Chili, qu'est-ce qu'on vend, ou en Indonésie, mettons, mais je suppose que la floraison publicitaire a dû accompagner ou suivre, peut-être précéder, par des signes avant-coureurs, des événements qui relèvent du pouvoir même. Quand Noam Chomsky, dans un texte qui vient d'être interdit aux États-Unis à travers toute une série de péripéties sur lesquelles on pourrait revenir, explique que l'Indonésie, après le grand bain de sang des années 60, est devenue le paradis des investisseurs, je présuppose que ce paradis a dû fleurir par sans-fleurs, qui ne sont pas les mêmes que les autres sans-fleurs, et qui ont dû, sur les murs, couvrir de toutes sortes de couleurs des tas de choses prometteuses. Historiquement, je suppose, mais ça, j'en suis pas sûr, hein, c'est vraiment une chose que je vous dis comme ça. J'ai l'impression que, disons, Goebbels a dû faire de gros progrès aux affiches. Et avant lui, ses émules, enfin, ce qui a précédé l'année 33. Quant à l'autre discours, les régions, moi, je suis assez perplexe. Et je pense qu'en première approximation, ça se donne comme des langages anti-pouvoir, anti-centralisation. Mais ça dépend aussi des phases de la prosodie historique, parce que sous la Troisième République, le régionaliste, c'est le maurassien. Et puis maintenant, ça s'est renversé tout à fait. Et qu'est-ce qui provoque, qu'est-ce qui produit ce renversement? On a l'impression d'une espèce de tirage au sort du sens dans lequel ça se déroule. Bon, ce qui n'empêche pas que, à mon avis, ce sont actuellement, dans la conjoncture actuelle, ce sont des phénomènes extrêmement intéressants et qui me semblent très pertinents. Et donc plutôt anti-Staatsmacht. Là, je crois qu'on pourrait peut-être essayer de toucher à ça avec les doigts de Georges Bataille, disons, la sociologie du sacré, dont il essayait de poser quelques prémices. Et ça voulait être une analyse de la production du sacré. Comment ça se produit, le sacré? Or, le sacré se produit d'abord localement, c'est pas autour de lieux. Enfin, l'Alsace se retrouve autour du Mont-Saint-Odile à un moment donné, et puis la Bretagne, je ne sais pas autour de quoi. Mais alors, ces phénomènes d'investissement autour de lieux, qui sont des lieux de langage, c'est-à-dire des lieux qu'on énonce comme tels, et qu'on interdit en les énonçant, puisqu'on doit les dire, mais avec des précautions de langage, avec le respect qui leur est dû, et même éventuellement en les taisant tout à fait, etc., comme la Kaaba, enfin. Bon, ces lieux finissent en effet par être soumis à une sorte de processus en spirale qui font qu'à un certain moment, il n'y en a plus qu'un. Il n'y a plus que la Staatsmacht napoléonienne et l'État moderne. Alors, si on désenroule le procès, on va plutôt vers la libération des puissances du langage, et en particulier la libération des langues elles-mêmes. Donc, le retour à ces langues qui, en France, ont été effectivement broyées, opprimées, alors qu'elles vivent en Allemagne ou en Italie ou dans les pays slaves beaucoup plus intensément. Et ça, je pense que on peut se dire que tout ce qui essaye de leur donner un minimum de respiration est plutôt positif, bien que les résultats à cet égard sont très problématiques et assez fictifs, non?
C'est Jean-Paul Aron qui demande la parole.
Je voudrais revenir sur les deux chevaleries distinguées par Jacques Roubaud. Je crois qu'on lui accordera très facilement que la chevalerie du Graal et la chevalerie tout court se distinguent comme, disons, une chevalerie officielle et une chevalerie secrète. Mais je crois qu'il faudrait nuancer un tout petit peu ces énoncés. D'abord parce que la chevalerie dans la société médiévale,
dès le XIIe au XIIIe et encore au XIVe siècle, n'est pas exactement la classe dominante. La classe dominante, c'est la noblesse, avec laquelle la chevalerie s'est toujours distinguée. La chevalerie n'est ni la noblesse, ni l'ordre féodal. Et je m'excuse d'être ainsi pinailleur, mais c'est pour dire ceci, qu'à l'intérieur de l'ordre nobiliaire, la chevalerie est déjà à un certain degré ésotérique. Elle est déjà quelque chose qui suppose une élection. À l'intérieur de la chevalerie tout court, nul doute que la chevalerie telle que le Graal l'exprime mystiquement et mythiquement représente alors un secret que la chevalerie tout court, celle qui paraît au grand jour, ne représente pas. Mais alors là, je voudrais faire une autre remarque. La chose n'est pas tellement rare au Moyen-Âge, puisque dans d'autres classes qui ne sont pas forcément les classes dominantes ou qui exercent par rapport à la dominance des rôles divers, je pense à l'Église ou même à la bourgeoisie, à partir du XIIIe ou du XIVe siècle, il faut bien distinguer là aussi ce qui est ouvert et ce qui est fermé, ce qui est officiel, si l'on peut dire, et ce qui est secret. Il y a une Église officielle et il y a tout de même les ordres religieux, le Temple par exemple, qui est régi par une règle profondément secrète. Et je pense à l'intérieur de la bourgeoisie, elle apparaît dans ce qui sera plus tard la France, elle apparaît comme on sait difficilement et timidement, mais enfin, il y a nous parlons alors là de l'Europe occidentale en général, il y a tout de même des corporations, et à l'intérieur des corporations, tout le monde sait, ce sont des lieux communs, qu'il y a des règles secrètes. Je veux dire par là que ça ne met nullement en question ce que Roubaud disait sur la chevalerie du Graal. Je veux dire que je ne pense pas qu'il y ait une relation immédiate et objective entre le secret et la classe dominante. Ou du moins qu'il faudrait préciser précisément cette oligarchie du secret ou de l'occulte, par rapport à la classe ou à la société dominante.
Jacques Roubaud ?
Je n'ai pas fait un parallèle entre ce qui est raconté dans les romans du Graal, qui de toute façon est assez divers parce que ça s'étend sur une longue période de temps et qu'il y a des auteurs variés, et ce qui se passe à ce moment-là dans la société. C'est-à-dire, j'ai pas voulu faire de l'histoire médiévale, ce que j'en serais bien incapable, mais je voulais simplement prendre ce qui nous est raconté. Et dans ce qui nous est raconté, alors là, vous ne voyez pas du tout la bourgeoisie, ni les vilains, ni la paysannerie. Ils sont complètement gommés. Donc, ce qu'on peut prendre, c'est le discours du récit du Graal comme il se présente. Et il se présente comme je l'ai dit. On nous le dit, il y a la chevalerie terrestre et puis la chevalerie céleste. Et on cherche à débrouiller les liens entre les deux. Et de toute façon, c'est une interprétation qui est encore plus éloignée de l'histoire que prendront les idéologies racistes ou d'extrême droite de ça. Ils la prendront de manière burlesque, mais ils en retiendront quelque chose dans le fonctionnement, quelque chose qui leur servira idéologiquement et qui, là, à ce moment-là, est encore plus éloigné de la réalité médiévale.
D'ailleurs, nous, on disait chevalerie avec des guillemets, je crois, parce que, en tout cas, parmi les chevaliers, alors modernes, justement, il y en a un qui est intéressant, c'est Franz von Papen, qui est un chevalier, il y en a quelques autres dans l'Allemagne politique. Et c'est lui, modeste chevalier sarrois, qui est chargé d'apporter le saint vaisseau, disons le signe en tout cas, de l'investiture aux autres chevaliers, ceux qui vont faire les Ordenburg. Mais alors, à propos de l'investiture et de l'onction, enfin, ou du sacre, moi, j'ai trouvé un texte qui amusera peut-être Jean-Paul Aron, parce que je sais que c'est un auteur auquel il est très sensible. C'est un texte de Saint-Simon, non pas le comte, mais le duc. Et voilà ce qu'il dit. Il y a une expression bizarre chez lui, c'est le crème, avec un H, CH. L'ancien crème, qui, dans son lexique, signifie une liaison occulte, une liaison comme ça, qui court en dessous de l'apparence. Et voilà ce qui se passe. Il était toujours demeuré une sorte de liaison de Monsieur le Prince et de Monsieur le Prince de Conti à lui, c'est-à-dire La Rochefoucauld, de l'ancien crème des pères, mais sans rien d'apparent. Donc, cet ancien crème, c'est cette sorte de liaison qui court au-dessous de la surface sociale, qui fait partie des liaisons entremêlées et quasiment cachées, secrètes ou profondes, a-t-on envie de dire. Et alors, ça joue dans les intrigues de la cour des rôles immenses. Évidemment, tout à coup, ça apparaît dans des événements manifestes et de surface qui peuvent avoir des effets prodigieux.
Jean-Noël Vernet.
Il a été question par allusion une fois ou deux de Nietzsche. Et il me semblerait intéressant peut-être de voir, au moins rapidement, enfin, comment certains énoncés nietzschéens ont pu être repris et utilisés dans la période qui nous intéresse. Et peut-être que plus généralement, à cette occasion, il serait possible de parler des énoncés philosophiques en général.
Oui, ça c'est fondamental, parce que le sens du discours nietzschéen lui-même, qu'est-ce qu'il signifie ? Dans la nappe idéologique de la République de Weimar, il est capté, en tout cas, surtout par la droite. C'est effectif. À part, disons, les écrivains d'avant-garde qui s'intéressent à Nietzsche dans la gauche, idéologiquement, il appartient à la droite. Mais là, c'est l'effet d'un, sans doute, un énorme malentendu que Bataille et Klossowski, dès le collège de sociologie et Céphale, ont essayé de démonter, d'abord en citant les textes de Nietzsche en anti-antisémite, sont extrêmement violents et méprisants. Les lettres à Theodor Fritsch, là, l'auteur du catéchisme antisémite. Et puis, surtout, le complot nietzschéen, ce n'est pas le complot des brutes blondes qui s'emparent du pouvoir d'État, les armes à la main, c'est au contraire le complot de ceux qui sont dispersés, qui n'ont rien dans les mains et qui jouent leur partie par la seule épreuve du mythe ou du concept de l'éternel retour. Finalement, le surhomme, enfin l'homme du complot nietzschéen, ressemble plus, à mon sens, à Vladimir Ilitch, Lénine marchant seul dans la rue qui conduit le long de la cathédrale de Smolny vers le soviet de Petrograd, sans aucune arme ni aucune escorte, mais qui porte en lui un concept capable de renverser les perspectives, que à, disons, un général de l'organisation de l'appareil d'État de Heydrich au sommet du Troisième Reich. Mais ce que posait comme question Jean-Noël Vernet, c'est peut-être plus que ça, c'est le comment fonctionnent les énoncés philosophiques dans l'ensemble des circulations d'énoncés idéologiques. C'est-à-dire que sont-ils réductibles aux énoncés de l'idéologie ? Sont-ils simplement des séquences plus intéressantes ou mieux écrites d'une façon plus serrée ? Ou ont-ils un autre ordre de pertinence ? Ça, c'est un problème qui... C'est la question qui se pose pour Nietzsche, mais ça se pose plus encore pour Martin Heidegger, qui, effectivement, joue une partie redoutable dans le début des années 30 sur le terrain de l'idéologie et qui se trouve prise au piège de ce discours par toute une série de relais qui sont, je crois, pas assez explorés en France par ceux qui s'en réclament. Mais en même temps, il me paraît évident que l'ensemble de son discours ne se réduit pas à ça. Mais alors justement, je crois que c'est ça qu'il nous appartient d'explorer. Je crois que c'est ça. Quand nous essayons de dessiner quelque chose que nous tentons de nommer le mouvement du change des formes, ça veut dire quoi ? Qu'il y a ces déplacements de registres, qu'on ne peut pas analyser simplement les choix existentiels, les projets profonds, à la façon sartrienne. Par exemple, l'antisémite, c'est pas simplement un choix existentiel que fait le voisin dans l'autobus. C'est lié à toute une nappe d'énoncés narratifs qui commence avec Montlosier, qui remonte même beaucoup plus haut, et qui débouche sur un certain nombre de nœuds historiques et qui sont remis en circulation à d'autres moments du procès. Donc ça appartient au procès réel, à la fois économique et langagier. Ça n'est pas non plus, disons, les structures au sens du structuralisme tel qu'on le dessine à Paris, c'est-à-dire des petits tableaux fixes où on coupe l'or ou le capital d'un côté, l'imago du père, le phallus et le texte. Toute cette phraséologie est totalement inepte car elle ne nous donne pas vraiment justement les effets de circulation et d'interférence des circulations. Et Marx dit qu'effectivement, c'est une des rares choses qu'il dit sur le langage en passant, mais ça a une pertinence énorme. Il dit la production de la valeur économique, c'est quelque chose qui est produit socialement, fait de transformation, et c'est tout comme le langage. So gut wie, die Sprache.
Autre question.
Jacques Roubaud et Jean-Pierre Fay se sont référés tous les deux à la prosodie. l'un plus spécifiquement pour en poétique et Jean-Pierre Faye pour les questions de l'idéologie. Ce qui est frappant à mon avis, ce que j'aimerais bien voir discuter, c'est d'une part la question qui est derrière, c'est-à-dire d'une part la référence à Chomsky et le besoin de, par conséquent de théoriser les analyses que vous entreprenez, c'est-à-dire que les analyses que vous faites ne sont pas simplement des analyses descriptives, mais conduisent à une formalisation, à une théorie qui se voudra explicative. Donc c'est un besoin théorique, d'une part. Et d'autre part, le problème qui est envisagé du point de vue de ce qu'on appelait autrefois la sémantique, et qui est là totalement déplacé. C'est-à-dire on va vers les formes du langage, les formes de l'idéologie ne sont pas du tout assimilées à une sémantique au sens, disons, des logiciens ou des philosophes du langage traditionnels. Est-ce que vous pouvez développer sur ces deux points ?
Jacques Robot ?
Je pourrais dire une chose sur l'attitude théorisante, disons. Il y a une première réponse tout à fait évidente, c'est que si on ne donne pas une analyse théorique de ce que l'on fait, c'est-à-dire si on ne cherche pas à savoir quels sont les caractères formels de la prosodie traditionnelle, puisque c'est l'exemple que j'ai pris et développé un peu, si on ne se pose pas du tout cette question, si on ne cherche pas à savoir comment ça fonctionne, alors bien entendu, on sera d'autant plus sensible à la prosodie héritée, c'est-à-dire on sera absolument, si on n'est pas conscient de ce qu'on fait, on dépendra entièrement de la prosodie héréditaire. Et ça, c'est l'écueil sur lequel achoppent beaucoup de tentatives dites révolutionnaires dans le domaine de l'écriture, c'est qu'un certain nombre des caractères formels de ce qu'elles sont en train, en principe, de subvertir, y est tellement évident que cette contradiction-là les annule complètement. Pour ce qui est de la sémantique, je pense que je vais renvoyer la question à Jean-Pierre.
Il est certain que ce qui peut se chercher actuellement est beaucoup plus d'armature que les propos sur la sémantique qui se tentaient il y a, je sais pas, une quinzaine d'années et qui aboutissaient à des trivialités de l'ordre des catégories d'une sémantique universelle qui ressemblait un peu au dictionnaire des idées reçues de Flaubert. Mais en tout cas, ce qui me paraît amusant en ce moment, c'est qu'on est obligé de faire front sur trois terrains ou de percer sur trois fronts. Le premier front, c'est l'illusion du sens commun. Ça consiste à dire tout ça, ces histoires de langage, ça ne sert à rien. Après tout, ce qui est intéressant, c'est évidemment les forces sociales et puis les idées. Par exemple, enfin, je me souviens d'une grande discussion où on me disait, inutile d'épiloguer sur le langage idéologique de Hermann Rauschning, l'homme de Hitler m'a dit, et de la révolution du nihilisme, parce que moi, me disait-on, je l'ai connu, Rauschning, je l'ai rencontré, et je connais ses idées, je sais ce qu'il pense, puisque je l'ai vu et rencontré. Et là, ma réponse, fort naïve d'ailleurs, consistait à dire, eh bien évidemment, on peut rencontrer Hermann Rauschning, on pourrait même rencontrer peut-être au coin de la rue Adolf Hitler, s'il s'est échappé, ou Bormann, mais à moins de faire tourner les tables ou de procéder par télépathie et transmission de pensée, il est probable qu'il parlera par le langage, et à ce moment-là, il appartiendra au champ. Et Rauschning, par exemple, dont on a fait en Occident, surtout dans l'Occident anglo-saxon, mais aussi en France, le vrai interprète du phénomène nazi, c'est-à-dire celui qui dit « mais les nazis, c'est vraiment des révolutionnaires », ce brave Rauschning avait fait une prophétie un peu imprudente qu'il a gommée des rééditions en langue allemande après la guerre. Il avait dit « moi qui suis un néo-conservateur, moi qui appartiens au club des messieurs, je vois en effet maintenant que je me suis trompé en devenant nazi, car les nazis, ils sont loin de moi, ils sont plus à gauche que moi ». Ils sont même au centre de la droite, de l'extrême droite, donc ils sont plus à gauche que la droite de la droite. Mais ils sont dépassés par des gens bien plus dangereux, puisqu'ils sont plus à gauche qu'eux-mêmes, c'est-à-dire les nationaux bolcheviques, ceux qui sont à l'extrême gauche de l'extrême droite. Et alors là, le bon Rauschning disait, vous verrez, il y a quelqu'un de bien plus dangereux que Adolf Hitler, c'est Ernst Jünger. Alors, évidemment, nous avons le privilège de savoir qu'Ernst Jünger n'a pas renversé le pouvoir d'Adolf Hitler, qui n'était pas le jacobin dont Hitler était le girondin, car ça, il l'a écrit, noir sur blanc. Le jacobin Jünger, bon, il publie des livres d'édition à la table ronde, même sur la drogue, enfin, il est presque devenu un hippie californien, et il écrit aussi sur Rivarol, enfin, une activité littéraire éminemment moderne. Mais en tout cas, il est certain que c'était pas ça qu'avait perçu dans l'illusion idéologique, ce qu'avait perçu Rauschning, évidemment, ce n'était pas réel, mais ça fonctionnait. Ça contribuait à faire qu'en effet, Hitler prenait le pouvoir grâce à ce jeu sur les oppositions diamétrales à l'intérieur de sa prosodie idéologique de l'extrême droite allemande. Alors ça comptait effectivement dans l'effet de pouvoir qui apparaît au terme. Bon, ça c'est donc l'illusion du sens commun. Le sens commun, tant pis pour lui, même s'il est porté par des noms prestigieux. Alors, l'autre illusion, c'est l'illusion du texte, enfin l'illusion de la superstition textuelle qui est actuellement très à la mode, qui consiste à admettre que le langage écrit, le langage de l'écriture, est à lui-même une théorie. La théorie est déjà dans l'écriture, le texte sait, C-A-I-T, l'écriture textuelle est l'histoire réelle, directement et par un effet d'implantation magique. Bon, il y a une troisième illusion qui apparaît maintenant, qui est beaucoup plus sympathique, mais qui est aussi régressive, enfin qui est plus naïve, qui est une sorte de retour à l'illusion hegelienne, qui consiste à dire, fions-nous au langage qui seul peut nous libérer, c'est-à-dire le langage de la poésie, la poésie libre et sauvage, elle seule va nous désopprimer et nous désaliéner, et en effet, elle va nous délivrer en particulier des prétentions de la théorie qui sont, dit-on, toujours totalitaires. Ça a été écrit noir sur blanc. Mais que veut dire le mot théorie appliqué à ce qu'on essaye de dire là? C'est pas le mot qu'on va entourer d'un halo de respect sacré. La question n'est pas là. C'est que l'exploration de la pensée dans ces points de jointure entre le langage et le pouvoir, par exemple. Bien, ce type d'exploration, si on le mène de façon conséquente, ça permet de voir effectivement ce procès de puissance qui est inscrit dans la compétence de la langue. Et on peut dire que ce pouvoir de voir plus clair dans les articulations ou les jointures ou les chevilles, c'est de la théorie, mais dans théorie, il y a le mot théâtre, enfin c'est Théoria ou théorène, c'est le théâtron, c'est-à-dire qu'on voit mieux, on est mieux assis pour voir, on est sur les bancs de pierre du théâtron grec, et ce qui se passe au centre, là, dans la mise en scène que l'histoire fait avec le langage, et en construisant le pouvoir avec ça, avec le langage et le désir dans le langage, eh bien, on y voit quelque chose. Et à ce moment-là, ce qu'on peut découvrir de très étrange, c'est que les formes les plus sauvages du langage libre, du langage poétique, ont des conséquences étranges en elles-mêmes. Moi, je pense au livre qui se nomme Mélancolia, qui a été écrit par Jean-Claude Montel. Eh bien, c'est apparemment une langue sauvage et elle est entièrement conséquente. Finalement, son degré de sauvagerie me paraît beaucoup plus grand que celui de certaines langues auxquelles Jacques faisait allusion tout à l'heure, c'est-à-dire des langages qui paraissent débridés, qui en fait sont remplis de toutes sortes de stéréotypes acquis, qui viennent des vieilles métriques, des bons vieux octosyllabes, des bons vieux alexandrins qui sont là, quitte à être habillés d'un peu de Céline ou d'un peu de Guyotta, quoi.
Ou de Jean Rictus.
Ou de Jean Rictus, oui. On peut mettre des apostrophes aux œufs muets, mais ces pseudo-débridages, finalement, c'est la même carence qui fait qu'elle manque à la fois la conséquence et la virulence, je crois.
Robert Jolin.
Je voudrais revenir sur la première partie de votre entretien afin de dissiper, tout du moins pour moi, une petite équivoque, une inquiétude. À plusieurs reprises, j'ai eu l'impression, vous opposiez très nettement, et là c'était compréhensible tout du moins au départ, la lutte des classes et la lutte du sang, la lutte de race. Puis de là, vous passiez, comme il s'agissait de la même opposition, l'opposition de la lutte des classes à celle de la lutte des peuples, et on a eu l'impression que vous auriez pu aller encore beaucoup plus loin, tout en faisant comme si vous mettiez dans le même panier race, peuple, puis finalement éventuellement ethnie ou civilisation, On a eu cette impression-là lorsque, à la question sur le régionalisme, vous avez répondu en disant « tout cela, ça peut s'interpréter dans tous les sens, aujourd'hui ça va, mais hier ça n'allait pas ». Or, je pense que les choses sont quand même un petit peu plus complexes. Déjà, l'opposition lutte des classes et lutte des races, c'est un discours qui est tenu par le monde hitlérien, mais qui signifie plus que ces simples phrases, hein, et dont on pourrait donner beaucoup de lectures. Quant aux autres propositions, quant à l'analogie entre lutte des races, lutte des peuples, entre races, peuples, ethnies, etc., alors là, elle est un tout petit peu rapide, et finalement, est-ce qu'elle ne conduit pas simplement à affirmer une certaine chevalerie, si je peux dire, celle qui se donnerait en bannière l'image ou les mots de lutte des classes?
Jean-Pierre Faye.
Je crois que c'est un peu de ma faute, parce que j'ai cité les choses à l'envers. J'ai cité par ordre de grandeur, au lieu de le citer par ordre d'énonciation. J'ai cité Mein Kampf avant Lanz von Liebenfels et celui-ci avant Montlosier. Mais Montlosier, ça paraît après 1815, et quand Augustin Thierry dit « il déguise la lutte des classes », dont en passant d'ailleurs Augustin Thierry donne pratiquement le premier énoncé dans l'histoire des langues. Quand Augustin Thierry dit « la lutte des classes chez Montlosier » est remplacée par le vocabulaire pittoresque de l'histoire des peuples, des invasions et des conquêtes. Il ne veut pas dire n'importe quelle lutte des peuples entre elles. Il réfère là à une querelle du discours, à une querelle du discours épistémologique, si on veut, qui se déroule entre la fin du Moyen-Âge et l'époque de Gobineau, et qui a pour point de départ la question de savoir qui sont les Français. C'est tout bête. Qui sont les Français? Est-ce que c'est des Gaulois? Est-ce que c'est des Gallo-Romains? Ou est-ce que c'est des Francs, les François, comme les appelle Boulainvilliers. Mais alors, la querelle était de savoir, en particulier, si la noblesse ne descendait pas des Francs et le tiers-État des Gaulois. À ce moment-là, alors l'histoire des conquêtes est idéologiquement la justification des stratifications sociales. Le droit de conquête est la justification que Boulainvilliers, Saint-Simon, le duc, et puis ensuite Montlosier donnent de l'état de choses, de rapport des classes. C'est à partir de Seyès et de Mably qu'on commence à renverser les choses en disant « mais si vraiment ce sont des conquérants, après tout, qui repartent, puisqu'ils sont déjà partis au-delà du Rhin, avec l'armée de Pitt et Cobourg, qu'ils y restent, et le tiers-État, c'est tout, c'est la France même. » Finalement, disons, la gauche, enfin, de la Révolution française, décrypte le récit de type Boulainvilliers en disant « finalement, ce sont des rapports de classe, ce sont des rapports de domination sociale. »
Il me semble, si j'ai un peu saisi l'objection de Robert Jolin, je voudrais répondre en disant qu'on n'a pas universalisé.
Non, pas du tout.
On est en train de parler du discours historique.
C'est un contexte très local, alors là. C'est le rapport qui se borne au départ, au fond, à deux nations, au sens moderne du mot. C'est-à-dire, c'est un univers franco-allemand dans lequel ce discours est parlé. Il est évident que la lutte des peuples dominés contre les peuples dominants, elle est déjà énoncée de façon correcte, en gros, à travers toutes sortes de déguisements idéologiques, par, disons, Mably ou Sieyès, et même Guizot. Mais les peuples dominés parlent le discours de la lutte des classes, les peuples dominants retraduisent dans le discours de la lutte des races. Alors ça, je ne sais pas si tu retrouves ce processus sur le terrain de l'ethnocide, enfin, des formes de domination beaucoup plus perverses.
Mais s'il n'y avait pas eu cette réponse à propos de la question relative au régionalisme, je n'aurais pas été inquiet et je voyais bien le champ bien défini à l'intérieur duquel se situait votre discours. Mais je me demande si finalement vous êtes bien posé le problème de la corrélation éventuelle entre ce concept de lutte de classe et l'élaboration de ces réalités données, à savoir les nations.
Jacques Robot.
Je ne pense pas que ce soit tellement utile de s'engager dans ce débat qui dépasse totalement le problème relativement limité qu'on s'est posé là, parce que c'est vraiment un débat de politique générale.
Écoute, si tu veux, derrière ma remarque, je sous-entendais autre chose, qui est que l'histoire n'est pas nécessairement l'histoire des nations contre des nations, ou même des classes contre des classes, mais peut-être beaucoup plus profondément celle d'organismes d'une toute autre sorte contre des organismes de même sorte, je veux dire de civilisation contre civilisation. Or, si l'histoire est de cette sorte, la civilisation occidentale, dans sa procédure de destruction de toutes les civilisations, masque son jeu continuellement et ne dit jamais qui elle attaque, qui elle détruit. Non seulement elle ne dit jamais qui elle attaque, qui elle détruit, mais elle se donne toujours comme adversaire celui qui est en quelque sorte son complice ou son identique,
celui avec lequel elle fait cause commune. L'Allemagne se bat contre la France, ce sont l'une et l'autre des nations qui sont des constructions de cette civilisation occidentale. Et dans cette bagarre de l'Allemagne contre la France ou d'un fief contre une fief, il y a liquidation des civilisations paysannes, il y a liquidation des régions. J'entends par là les peuples qui expriment une civilisation donnée et non leur bourgeoisie, non Maurras, non les féodalités, non Joseph de Maistre. J'entends autre chose que cela. J'entends les actes quotidiens tels que des communautés, des collectivités assez fortes les marquent et les affirment. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on pouvait se demander si finalement la non-réponse sur les régions n'était pas comme une espèce de tentative d'universalisation discrète de ce concept de lutte des classes. C'est bien que ce que vous vouliez dire, c'était tout autre chose que alors, cela, mais c'est afin qu'il n'y ait pas d'équivoque que j'ai fait la remarque.
Ceci dit, il me semble qu'il y en a aussi dans ce que tu dis, parce que ce que tu as dit amène aussi à gommer complètement le fait que la bourgeoisie prussienne et la bourgeoisie française sont d'accord pour écraser la commune qui n'a rien de paysan.
Attention, quand je parle de destruction des civilisations, j'ai fait état effectivement essentiellement, pas des civilisations rurales, mais actuellement on le voit clairement, que je parle de toute civilisation, la civilisation parisienne entre autres. Il est certain que la commune était pour moi précisément quelque chose qui continuait à se battre contre ce rouleau compresseur décivilisant et unitaire et se généralisant. Ça veut dire que ce ne s'agit pas simplement de la défaite des civilisations paysannes, la défaite des civilisations citadines en est un exemple aussi. Nous savons très bien aujourd'hui que les civilisations citadines meurent dans le même temps que les civilisations paysannes. Quand on fout des autoroutes sur les quais de la Seine, lorsqu'on supprime des vieux quartiers pour faire des grands ensembles et des tours et des espaces morts entre ces tours, qu'est-ce qu'on fait sinon ne pas supprimer ce qui est commun, ce qui est relation de résidence, entre autres, puisqu'on parle de ville, relation, communication au niveau des mouvements quotidiens, des individus entre eux. Cela, c'est vrai pour Paris, comme c'est vrai pour les civilisations paysannes.
Oui, c'est pour ça. La commune,
c'est vrai au 19e.
La commune est un moment extraordinaire, parce qu'elle a l'air de reprendre simplement le flambeau de la Révolution française. En même temps, elle appelle au processus inverse, puisqu'elle appelle toutes les villes, toutes les communes, y compris les plus petites, à s'émanciper, à se libérer de Paris, et à se constituer en commune quasi-souveraine, fédérée. Mais en même temps, la commune, c'est ce moment où un groupe révolutionnaire essaye d'opérer un démontage du pouvoir. Il essaye de démonter l'appareil d'État, de mettre à nu son fonctionnement. Celui qui a la responsabilité de la police politique, d'Acosta, dont on a retrouvé les archives, justement, qu'on a déchiffré, montre comment il essayait de rendre public la façon dont fonctionnaient les indicateurs du Second Empire. Pour la première fois, un pouvoir qui s'emparait du pouvoir policier dans l'appareil d'État essayait de mettre à nu la police. Ce que, en général, se garde bien de faire les héritiers, justement, d'un pouvoir conquis par la violence. Et c'est au moment même où ils étaient en train de faire cette espèce de mise à nu que les armes leur sont arrachées et que le discours leur est pris. Mais je pense que le fait que cette sorte de grande démantibulation des rapports du pouvoir soit accompagnée par la démantibulation prosodique qu'analysait Jacques tout à l'heure dans le poème de Rimbaud, c'est une concomitance tout à fait singulière et qui n'est pas simplement un effet de littérature. Il est certain que ça appartient à des procès très profonds de l'articulation humaine.
Bien, je crois que nous allons arrêter ici, à moins qu'il y ait encore une question très importante. Monsieur.
On a parlé d'Hitler, mais il me semble qu'il s'est produit en Italie un phénomène intéressant qui était Mussolini. Mussolini qui a créé, qui n'a pas créé, mais qui s'est servi du mot fasciste, fascio, pour organiser un gouvernement. Et ce mot fascio, nous l'avons aussi, nous autres Français, adopté. Donc, il a eu quand même un certain pouvoir linguistique.
Oui, d'ailleurs, Mussolini n'a pas seulement inventé le mot fascio, et plutôt il l'a repris. D'ailleurs,
il l'a repris.
À des usages qui étaient primitivement des usages de la gauche paysanne, justement, les fachos de Sicile, les festeaux révolutionnaires, c'était des paysans insurgés, c'était des sortes de comités d'action directe. Il a retourné donc ce mot en mot de la droite nationaliste, mais surtout, il a improvisé un beau jour le mot totalitaire, et c'est par lui que cet adjectif redondant s'est tout à coup associé de façon syntagmatique et durable au mot « État ». Et que le stato totalitario apparaît dans la constellation européenne par son biais apparemment le plus anodin, le plus proche de l'opéra bouffe dans le contexte italien. Mais en fait, à travers cette tragicomédie du récit mussolinien, car c'est en racontant comment a été assassiné Matteotti et en assumant ce récit comme étant celui dont il se déclare l'auteur, après avoir beaucoup hésité, d'ailleurs, dans les coulisses de l'appareil d'État, que finalement, Mussolini se décide à dire, bien voilà, l'État est totalitaire à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire que à partir de cette nuit, tout le monde qui prendra l'énonciation sans permission sera arrêté et se verra arracher le droit au discours. Et effectivement, les discours mussoliniens ont cette particularité curieuse de précéder quelquefois de quelques heures les actes d'arrestation et de répression qu'ils sont censés accomplir.
Maintenant, je crois au point de vue économique. Il a voulu que le fascisme représente, par exemple, l'alliance du capital avec le travail. D'ailleurs, Mussolini était un ancien socialiste.
Ah, effectivement, mais justement, il est, en tant qu'ancien socialiste, et même à l'extrême gauche du Parti socialiste de l'époque, et en tant que rédacteur en chef de l'Avanti, il a opéré une extraordinaire pirouette, enfin un retournement de discours, qui a permis le processus que j'essayais d'analyser tout à l'heure, c'est-à-dire de transférer au compte du conservatisme tout le bénéfice, enfin toute l'acceptabilité, tout le crédit, disons, du discours révolutionnaire et prolétarien. Et ça, c'est le premier qui a fait ça. Ce qu'il a fait à ce moment-là, par une série d'improvisations tactiques, comme ça, eh bien, les Allemands essaieront de le refaire de façon plus systématique.
Je voudrais savoir,
s'il vous plaît,
en quoi le langage est-il dangereux par rapport toujours au pouvoir politique en 1974 ?
En 74 ?
Oui.
Je crois qu'il aurait fallu commencer par là, si on voulait en dire quelque chose. Je crois en tout cas que, curieusement, ce discours sur la légitimité et la légalité a réapparu en France dans les années qui ont accompagné la fin de la guerre d'Algérie, ou le milieu de la guerre d'Algérie, et que on n'est pas sorti de ce type d'opération pivotante qui permet de retourner les légitimités. Je pense qu'on est en plein dans ce type de processus.
Oui, l'entrelacement de deux discours d'origine différente existe ailleurs que dans l'Allemagne nazie, ça c'est clair.
Venez d'entendre Langage, puissance et totalitarisme, une conférence diffusée dans l'émission Dialogue, produite par Roger Pilaudin, le 14 mai 1974 sur France Culture. Ce programme est à réécouter ou à podcaster sur franceculture.fr à la page des nuits.